Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.
La deuxième partie du débrief, chaque lundi, votre rendez-vous hebdomadaire avec Radio VFM et Foot Normand. Focus désormais sur le derby, mais côté Havre, le Havre 4e avec 20 points qui se déplacera à Dornano pour y affronter le Stade Malherbe de Caen, 12e avec 14 points. Toujours à mes côtés, Mathieu Billot de Foot Normand. Re-salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Notre invité sur cette partie, c'est Benoît Donquel, journaliste sportif à Paris-Normandie. Salut Benoît.
Salut, salut à tous.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Mathieu, on va commencer justement par évoquer l'actualité du HAC avant de se focaliser évidemment tout à l'heure sur la partie dynamique de ce club qui va très bien en ce moment.
Ouais parce que ouais, il y a pas eu vraiment de trêve hein, Benoît, il y a eu pas mal d'actualités, un petit peu de mercato après l'heure avec une arrivée et une prolongation.
Oui, c'est ça, oui. Alors c'est rares sont les fois où la trêve internationale donne lieu à autant d'actu. Y a d'abord eu effectivement l'arrivée du joker, hein, Ismaël Bourra, un jeune latéral gauche de 21 ans, prêté par le RC Lens et qui a quand même quelques matchs de Ligue 1 dans les jambes. De mémoire, c'est une vingtaine d'apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Franck Hez. Donc voilà, c'est un poste qui était vacant depuis le départ de Doumout Meras à Beşiktaş. Paul Le Guen bricolait un peu de ce côté-là. Hein. Les deux derniers matchs, on a vu Isaac Touré jouer latéral gauche. Isaac Touré, 2m04. Je suis pas persuadé qu'en Europe, il y ait beaucoup de latéraux gauches aussi grands. Ça a fonctionné. Maintenant, sur la durée, je pense que Le Guen savait très bien que ça ne pouvait certainement pas fonctionner comme ça. Donc voilà, le HAC est enfin doté d'un latéral gauche de formation.
Ouais. Juste un petit mot sur Ismaël Bourin. Est-ce qu'il y a des chances de le voir dès samedi et peut-être titulaire?
Je mettrai une petite pièce sur sa titularisation. C'est quelqu'un qui a fait la prépa avec le RC Lens. C'est quelqu'un qui était à chaque fois appelé dans le groupe des 20 par Francaise. Donc je suppose que c'est un joueur qui physiquement est prêt. Tactiquement, voilà, là il a eu deux semaines pour prendre un peu ses marques avec Paul Le Guen et ses nouveaux partenaires. Moi je vois pas pourquoi ce nouveau joueur ne serait pas d'entrée aligné samedi prochain.
La deuxième actualité, donc c'est la prolongation de Mathieu Gorgelin pour 3 saisons. Donc forcément, on parle beaucoup hein, du côté du HAC de la situation des gardiens, car Mathieu Gorgelin, suite à sa blessure, n'a pour le moment pas retrouvé sa place de titulaire. C'est Yaya Fofana qui garde les cages. Yaya Fofana qui a la particularité de lui être en fin de contrat au mois de juin.
Ouais, il a cette particularité-là et le gros point noir, c'est que Yaya Fofana et ses conseillers, ses agents, je crois qu'il doit y avoir son frère hein, dans ce groupe de conseillers, a pour le moment rejeté toutes les offres de prolongation émises par le HAC. Du côté des dirigeants, certains pensent qu'il aurait déjà donné son accord à un club de Ligue 1. On a cité les noms de clubs comme Nice, comme Monaco. Alors maintenant, est-ce que ce serait une bonne affaire pour lui de quitter le HAC pour peut-être tirer le banc en Ligue 1? On ne sait pas. En tout cas, il est quasiment acquis que Fofana traverse sa dernière saison au Havre.
Benoît, il y a une vraie question autour du match qui nous intéresse samedi. Derby ou pas derby? À Caen, on a plutôt tendance à penser que c'est un derby parce que les deux clubs sont en Ligue 2. Il n'y a plus de club normand en Ligue 1, qu'il y a une question de suprématie régionale derrière ça. Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler au Havre que le derby, en fait, le seul derby, c'est face à Rouen. Alors, derby ou pas samedi?
Non, c'est vrai que du côté du Havre, l'unique derby, le vrai derby, parce que je dirais que la rivalité dépasse le simple cadre du sport, c'est avec le FC Rouen. Le seul problème, c'est que plus les années passent, plus les générations passent, et plus ce derby face au FC Rouen prend la poussière et ne veut plus dire grand-chose. Voilà, le FCR est en National 2. Le FCR n'est sans doute pas prêt, en tout cas, de remonter jusqu'en Ligue 2. Donc effectivement, je dirais que sportivement, uniquement sur l'aspect sportif, Le derby, maintenant, c'est effectivement face à Caen, parce qu'on sent qu'il y a un réel engouement autour de ces deux confrontations de la saison avec Malherbe.
Ouais, parce que c'est vrai que ces confrontations contre Rouen, je crois qu'il n'y en a plus eu contre 2004, hein, donc ça commence effectivement à dater.
Ouais, tout à fait.
Il n'en demeure pas moins que c'est une confrontation régionale qui semble particulièrement attendue par les supporters Ciel et Marine. À en juger par l'engouement qu'il suscite, le parcage visiteur sera plein à craquer samedi à Dornano. 1000 supporters, preuve quand même, Benoît, qu'un Caen-Le Havre, ça reste évidemment un match à part.
Oui, tout à fait. Même si, voilà, on en revient à la notion de derby, c'est pas l'engouement qu'il pourrait y avoir pour un match face au FCR, mais peut-être que plus les années vont passer, plus ce à Caen deviendra le vrai derby, la vraie confrontation régionale. Là, il y a un réel engouement, parce qu'effectivement, c'est Caen, un match à part, le voyage est très court, et puis, effectivement, le Havre reste sur de très bons résultats. Ça donne effectivement envie aux supporters d'aller, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si, j'espère qu'ils feront la fête à Dornano, mais en tout cas d'aller assister ce match. Je crois que oui, effectivement, le parcage visiteur est déjà plein. Et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de Havrais à droite à gauche dans chaque tribune de Dornano.
On a évoqué le contexte, on va se concentrer maintenant, Mathieu, sur ce qui va se passer sur le terrain.
Oui, alors du coup, le hack devrait quasiment être au complet hein, samedi, Benoît, à l'exception du blessé de longue date, hein, qui est Emen Ben Bohamed.
Ouais,
voilà. Après, il y a quelques sélectionnés hein, qui vont faire le retour en ce début de semaine.
Ouais, généralement, ça revient progressivement. On va attendre le retour de Mayembo et de Mbemba, qui étaient partis... rejoindre la sélection du Congo. Y a les jeunes également, Isaac Touré, Abdoulaba, qui était avec les U19 de l'équipe de France, Tierno Baldé avec les U20 de l'équipe de France, Amir Richardson avec les U23 du Maroc. Voilà, on va attendre, et je pense que peut-être que Le Guen attend avec impatience et peut-être un petit peu d'appréhension, le retour des internationaux. Généralement, il y a toujours un petit pépin qui traîne à droite à gauche. Pour le moment, effectivement, le seul forfait assuré, c'est celui de Ben Mohamed, qui est l'unique blessé.
On faisait le point sur les sélectionnés. Bon, il y a une petite histoire un petit peu insolite concernant Amir Richardson, donc comme tu le disais, qui est parti avec les U23 marocains, mais qui aurait très bien pu être aussi avec les U20 français.
Ouais, tout à fait. Bah, il se passe beaucoup de choses hein, actuellement autour d'Amir Richardson. Hein. C'est vraiment la révélation. Beaucoup de clubs, beaucoup d'agents contactent actuellement le HAC pour connaître un peu sa situation et tâter un peu le terrain dans l'espoir de signer un gros coup avec Richardson peut-être l'été prochain. Mais effectivement, Richardson a été appelé. Sa maman est d'origine, a des origines marocaines, donc ça n'a pas échappé à la Fédération Royale. Il a été appelé pour un simple rassemblement hein, U23 au Maroc. Je crois qu'il devait y avoir 23 ou 24 joueurs. Il a décidé d'y aller pour tenter l'aventure et pourquoi pas. Ça peut être une expérience humaine et sportive plutôt sympa. Sauf qu'au moment de monter dans l'avion, l'équipe de France U20 l'a appelé. Il y a eu un forfait de mémoire, c'est Timothée Pembélé, je crois, le Bordelais qui a déclaré forfait. Ils ont pensé à Richardson pour le remplacer dans la sélection, mais Richardson allait grimper dans l'avion pour s'envoler vers le Maroc. Donc voilà, là ça n'a pas pu se faire. Sans doute une prochaine sélection pour Richardson avec les U20. Je pense que maintenant qu'il est sur les tablettes des sélectionneurs, ça se confirmera au prochain rassemblement international.
Alors on évoquait en préambule tout à l'heure le classement des deux formations. Focus sur le Havre, quatrième avec 20 points, invaincu depuis 8 journées. Les Havrais restent sur 3 succès de rang, on l'a dit. Meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 5 buts encaissés, 7 clean sheets. Le meilleur départ du Havre tout simplement depuis l'exercice 2007-2008, ça c'est du factuel. Et la saison 2007-2008, eh bien, c'était la saison de la dernière montée en Ligue 1 du Havre Athletic Club. Benoît, ma question, elle est claire. Est-ce que vous voyez des similitudes entre ces deux saisons ?
Ouais, il y a quelques similitudes, effectivement. Notamment sur l'intégration des jeunes et le niveau auquel ils évoluent actuellement. On verra si c'est sur la durée, comment ça se passe. Mais j'ai le sentiment qu'effectivement, à ce niveau-là, ça ressemble un peu à cette fameuse saison 2007-2008, où à l'époque, Mobilo nous sortait des jeunes qui étaient un peu connus, pas du tout connus, et qui tout de suite se mettaient au niveau de l'équipe. Donc là-dessus, il y a effectivement une vraie similitude. Ce mix entre jeunes qui se révèlent, anciens revanchards, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a une vraie équipe qui se dégage. Après, on va pas aller beaucoup plus loin, hein, parce qu'effectivement, en 2007-2008, il y avait eu énormément de départs à la trêve estivale, à l'intersaison. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Nobilo m'avait dit que le HAC allait droit dans le mur. Revo, qui était gardien à l'époque, me disait, à part le maintien, je ne sais pas ce qu'on va jouer. Et finalement, ça a pris et le Havre a quasiment marché sur l'eau cette année-là. Là, c'est quand même, voilà, là, c'est le HAC est un petit peu moins souverain qu'à cette époque-là. Ça reste fragile, mais pour le moment, effectivement, on a le sentiment que tout ce que tente Le Guen marche. Et c'était le cas avec Nobilo en 2007-2008.
Ouais, justement, par rapport à cette équipe là de Paul Le Guen de cette saison, elle marche pas sur la Ligue 2, hein, loin de là, mais on a quand même l'impression qu'il se dégage quelque chose, même avec les supporters au stade Océane. Est-ce que c'est dû à l'incorporation des jeunes, à l'esprit revanchard des anciens, comme tu disais? Il y a quand même quelque chose qui se passe, on a l'impression, cette saison WAC.
Oui, tout à fait. Tout à fait, bah, c'est exactement ça. Hein. Si on prend l'exemple de quelques anciens. Les Gibaud, les Mayembo, les Lécal, les Bonnet, c'est des joueurs qui se sont entre guillemets ennuyés la saison dernière. Alors ils disent que c'est aussi et surtout de leur faute, mais le HAC n'a pas existé du tout l'année dernière, ni en haut du tableau, ni en bas, même si de temps en temps, voilà, la zone rouge se rapprochait, mais le HAC n'a vraiment jamais été dans la galère en termes de classement la saison dernière. Et les gars ont eu l'impression de ne pas exister, de traverser cette saison dans l'anonymat. Donc là, avec un début de saison comme celui-ci, on les sent revanchards, on les sent dans le coup, on les sent avoir envie de jouer quelque chose. Et puis les anciens le disent aussi, les gamins apportent quelque chose de frais au sein du vestiaire. Tout le monde a l'air d'être sur la même dynamique, dans le même élan. Pour le moment, ça fonctionne.
Benoît, tu nous disais tout à l'heure, on va pas aller au-delà, on va pas s'enflammer, évidemment, au HAC. Il y a encore pas mal de doutes sur la suite. Est-ce que c'est aussi parce que le Havre a souvent déçu ses supporters après des débuts de championnat plutôt prometteurs? Est-ce que c'est ça qui incite aujourd'hui à la prudence?
Bah, c'est vrai que des débuts de saison canon, on en a connu quand même pas mal. On en a connu pas mal. Simplement, généralement, ça a commencé à décrocher après la 8e ou 9e journée. Là, ça a l'air de tenir un petit peu plus. Ça a l'air d'être... Il y a un vrai socle, c'est solide. Alors, c'est pas un football champagne, attention, c'est pas un football champagne, mais ça reste très, très solide. J'entendais l'autre jour des Nîmois dire « mais cette équipe est injouable ». Les Dijonais qui ont quand même secoué les Havrais, hein, lors de la dernière journée pendant 20-25 minutes. L'un des adjoints de Garande disait « une fois qu'on a pris le premier but, on savait que c'était terminé pour nous ». Donc voilà, cette équipe dégage vraiment une force, une solidité. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus efficace pour prétendre jouer vraiment et s'installer, s'ancrer dans le haut du tableau.
Ouais, du coup, ce derby, ou cette confrontation régionale, d'un côté ou de l'autre, est-ce que c'est l'occasion pour le HAC d'enfoncer le clou? Tu disais que ça dure un peu plus longtemps que les précédents départs qui avaient été prometteurs. Est-ce que là, ça, c'est pas l'occasion pour cette équipe, justement, de frapper les esprits et de frapper un grand coup?
Ah bah c'est clair que d'aller chercher et de ramener un très bon résultat de Caen, là effectivement ça marquerait les esprits et ça annoncerait peut-être le retour du Havre dans le cercle des prétendants. Alors je dis pas des favoris, attention, mais dans le cercle des prétendants, parce que surtout pas parler de Ligue 1 à Le Guen ou aux joueurs. On peut en parler au président puisque lui en parle chaque année, donc son objectif c'est la Ligue 1. Mais du côté des hommes de terrain, on reste quand même très très prudent.
Merci beaucoup Benoît Donquel, journaliste sportif à Paris-Normandie, d'avoir été avec nous pour la deuxième édition du débrief. Quand le Havre, c'est donc samedi à 19h au stade Michel Dornano. L'actu de ce derby à suivre évidemment sur footnormand.fr, mais également sur les réseaux sociaux de Paris-Normandie. On se retrouve à Dornano pour vivre ce moment particulier de la saison samedi soir, Benoît.
On y sera, on va surtout pas louper ça, non, mais voilà, quel que soit le résultat, quel que soit le côté où on se trouve, on sait que ça va être une belle soirée de football parce qu'il va y avoir une ambiance magnifique. Voilà, déjà ça fait du bien, parce que si ça fait du bien aux joueurs de retrouver du public, faut avouer que pour nous aussi. Ça fait du bien de retrouver des stades avec un peu d'ambiance.
On partage complètement. Merci Benoît, à samedi.
Merci à vous.
On reste ensemble, Mathieu, pour la troisième partie du débrief consacrée à l'actualité du foot en région et focus ce lundi sur la Coupe de France.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.